Le petit Johannes, chapitre 11. Nous verrons bien si je ne puis te faire admirer autant de merveilles que Liseron, dit Blücher. Et après avoir pris congé du docteur Chiffre, avec la promesse de ne pas tarder de revenir, Blücher mena Johannes dans tous les recoins de la grande cité, lui montrant comment vit, comment respire et se nourrit le monstre, comment il se consume sans cesse pour renaître à nouveau. Blücher marquait une préférence pour les quartiers mornes et répugnants, où règne un air humide et enfumé, et où les gens sont encaqués les uns sur les autres. Tous deux parcoururent aussi les énormes bâtisses que Johannes avait vues, crachant de la fumée par leurs hautes cheminées. Au milieu des martèlements, des grincements, des secousses, les volants tournent, les courroies glissent. Sous les pieds, aux murs, aux vitres, partout une suie épaisse. Une multitude d'hommes aux faces blêmes, les vêtements et les mains noircies, taciturnes, travaillaient là sans répit. « Que sont ces gens ? » demanda-t-il. « Des rouages comme le reste, ou des hommes si tu préfères, » dit Blücher en plaisantant. « Chaque matin, ils reprennent leur labeur de la veille. On peut vivre de la sorte et être quand même un homme, du moins de leur espèce. » Ils poursuivirent leur chemin par des rues sordides, si étroites qu'entre les gouttières se découvrait à peine le ciel, obscurci encore par des ardes qui pendaient. Les chambres étaient des galetas si puantes que Johannes n'osait presque y respirer. Pourtant des êtres, avec des rires et des chants, y grouillaient pêle-mêle. Des enfants en haillons se traînaient sur le carrelage, et des petites filles chantonnaient en berçant des poupons. Parfois des querelles, des injures. Tous les visages montraient des traits accablés, abattis ou mornes. Johannes avait le cœur affreusement serré, et rien de ce qu'il avait éprouvé jadis n'approchait de sa douleur présente. « Blücher, demanda-t-il, ces créatures ont-elles toujours vécu dans cette horreur? Y étaient-elles déjà quand moi... » Il n'osait poursuivre. « Mais assurément, et c'est heureux d'ailleurs, l'accoutumance les a aguerris et leur âme, dans son dénuement, ne conçoit point un état meilleur. C'est un bétail stupide. Vois ces deux femmes assises devant leur seuil. Elles considèrent le pavé infect avec le même contentement que toi, jadis, la dune. Ne t'attendris pas sur leur sort. Autant vaudrait s'apitoyer parce que les taupes n'ont jamais vu le soleil. » Johannes ne savait que répondre. Il ne savait non plus d'où lui venaient ses larmes. Et, au milieu de la cohue bruyante, il apercevait à tout bout le camard, avec sa face livide et ses yeux creux, parcourant la foule à grandes enjambées, en silence. « Quelle bonté de sa part, dit Blücher, d'arracher les gens à cette misère. Néanmoins, il ne le redoute pas moins ici que partout ailleurs. » La nuit venue, quand des centaines de lanternes s'effarant au vent miraient dans l'eau des fossés leurs longs reflets sinueux, tous deux cheminèrent par des rues plus paisibles. Les autres maisons semblaient se tasser les unes contre les autres et s'assoupir. La plupart avaient clos leurs yeux. À peine çà et là, une vitre s'éclairait d'une lueur terne et jaunâtre. Blücher fit de longs récits sur les occupants, narra leur transe, leur lutte contre la misère. Sans faire grâce d'un seul détail, il se complaisait aux scènes les plus douloureuses, les plus viles, les plus triviales, et ricanait de joie quand Johannes en demeurait pâle, muette d'horreur. « Blücher, demanda Johannes brusquement, connaissez-vous la suprême clarté ? Espérant, par la magie de ce mot, s'évader de l'ombre qui, sans cesse plus dense, l'oppressait.
« Des racontars de Liseron, répondit-il, des chimères creuses. Il n'existe rien d'autre que des hommes et moi. Te figures-tu qu'un dieu goûtera la moindre satisfaction à régner sur une pétaudière comme l'est ce bas monde? Si ta suprême clarté n'était point qu'un vain mot, tant de créatures languira-t-elle dans les ténèbres? » « Et les étoiles, s'écria Johannes, invoquant la splendeur des astres et des firmaments pour réconforter son âme devant le spectacle qui l'afflige. « Ne va pas, mon garçon, confondre les étoiles avec les réverbères de nos trottoirs. Les étoiles sont des mondes, tout plus volumineux que le nôtre. Grumeaux en fime, un aperçu parmi ces sphères, notre terre flotte dans les infinis sans bornes. « Non, non !» s'écria Johannes éperdu. « Ne le dites pas. Ce sont des lumières que je découvre dans les espaces. Il est vrai que tu ne discernes que des lumières, et tu auras beau, ta vie durant, scruter le ciel. Tu ne parviendras pas à y distinguer autre chose. Mais tu peux et tu dois, m'entends-tu, admettre que ce sont des mondes, et, au milieu d'eux, notre motte de boue, avec la multitude misérable qui y grouille, compte à pain. Ne pars donc plus des étoiles de manière à faire croire qu'il en existe seulement quelques douzaines. C'est insensé. » Johannes se tut. La magnificence dont les ténèbres se constellaient, au lieu de relever son âme, selon son espoir, l'abîmait. « Viens, » dit Plücher, « nous allons nous divertir. » Une musique langoureuse leur parvenait par bouffées. Sur un quai obscur se dressait un grand bâtiment dont les hautes ferrières déversaient sur le pavé une aveuglante clarté. Devant les portes, une fille de voiture attendait. Le piétinement des sabots résonnait dans l'immense silence nocturne. Des reflets allumaient l'argent des gourmettes et le vernis des carrosses. De la rue où il se trouvait, Johannes pouvait voir la salle, qui l'éblouissait par le flamboyement des lustres, l'éclat des couleurs, des glaces et des fleurs. Des personnages s'abordaient en souriant, se saluaient cérémonieusement. D'autres, vêtus de riches costumes, dansaient ou erraient d'une marche alentie dans des salles en enfilade. Une rumeur confuse, faite de voix, de traînements de pas, du frou-frou des soies et des satins, flottait, mêlée aux cadences de l'orchestre plein de meules ivresses. Sur le trottoir, de pauvres airs collaient aux vitres leurs faces au regard de convoitise. « Que c'est beau !» s'écria Johannes. « Pouvons-nous entrer ?»« Quoi ? Tu y prends goût, et tu ne regrettes donc plus le terrier du lapin ? Vois ces gens somptueusement parés lutter de grâce et de révérence. Et que de gravité dans ces danses, à croire qu'elles sont la chose du monde la plus importante. » Beaucoup de détails rappelèrent à Johannes le bal du terrier. Tout ici, cependant, se rehaussait de splendeur et de majesté. Les jeunes femmes, sous leur parure, lui apparaissaient aussi belles que des elfes, lorsqu'elles élevaient leurs bras nus et penchaient un peu la tête de côté en dansant. « Quelle splendeur !» s'écria Johannes. Des laquais allaient gravement par la salle et présentaient des rafraîchissements. « Hein, c'est diantrement beau, » dit Plücher. « Il te convient maintenant de dégager la vérité de dessous les apparences. Tu ne découvres que visages affables, mais la plupart des sourires ne sont que des feintes. Ces vieilles dames si avenantes et faisant tapisserie ressemblent à des pêcheurs sur la berge d'un étang. Malgré les chantillesses qu'elles se fondent, elles s'envient âprement leur prise. Si une de ces jeunes femmes se réjouit, c'est qu'elle porte une plus jolie toilette ou qu'elle est plus entourée, tandis que les hommes sont surtout aguichés par les épaules et les bras nus. Ces laquais, qui se courbent si obséquieusement, bafouent ce qui semble respecté. Si tout ce que ces âmes dissimulent se révélait soudain sur le visage, c'en sera bientôt fini de la fête. » À mesure que parlait Plücher, Johannes découvrait ce qu'il y avait d'affecté dans les mines et les gestes. La vanité, la jalousie, l'ennui perçaient sous les masques rieurs ou éclataient soudain lorsque le masque était mis bas un moment. Qu'ils fassent à leur guise, il faut bien qu'ils se divertissent et n'ont guère d'autres ressources. Johannes sentit quelqu'un debout derrière lui et se retourna. Le camard, avec son long corps, sa face livide inégalement éclairée, où les orbites formaient de grandes taches foncées, se parlait bas en dessinant du doigt une personne de la fête. « Le voilà un cœur qui cherche !» murmura Plücher. Johannes, regardant à qui la mort en avait, remarqua une vieille dame qui, au milieu d'un entretien, ferma les paupières. Une jeune fille s'interrompit de danser et frémit en dardant les yeux devant elle. « Pour quand est-ce ? » s'informa Plücher. « Ce sont là mes affaires, » répliqua la mort. « J'aimerais de montrer à Johannes ces gens sous un autre aspect, » fit Plücher avec un ricanement et un clignement d'yeux. « Ce soir même ?»« Pourquoi pas ? Il n'existe ni heure ni temps. Ce qui est a toujours été, et ce qui sera a déjà commencé d'être. » « Je ne puis t'accompagner. Mon travail m'absorbe, » dit la mort. « Tu trouveras bien le chemin sans moi. » Plücher et Johannes prirent ensuite des rues solitaires où les flammes des lanternes clignotaient dans le vent de la nuit. L'eau noire et glacée des canaux clapotait contre les quais de pierre. La musique s'éteignit dans le vaste silence qui accablait la cité. Soudain, dans le ciel, des cloches à grandes volées firent retentir comme un chant de fête. Et ce chant descendit de la haute tour sur le sommeil de la ville et dans l'âme affligée et morne du petit Johannes. Étonné, il leva les yeux. Le concert des cloches continuait avec des élans d'allégresse qui déchiraient le silence sépulcral de la nuit. Et ces notes joyeuses, cet hymne, résonnaient étrangement dans le calme endormi et le sombre deuil. Ce sont les cloches, dit Plücher. En toute saison, elles sont de la même bonne humeur. Chaque heure, elles reprennent ce chant toujours également plein d'entrain et de jovialité. La nuit, elles ont des accents encore plus alertes, comme si elles exultaient de ne pas être tributaires du sommeil. De pouvoir, sans répit, se réjouir alors qu'à leurs pieds les hommes gémissent et souffrent. Mais jamais leurs sonneries n'ont de plus joyeux éclat qu'en annonçant des funérailles. Un soir, Johannes, poursuivit Plücher, on verra, derrière une de ses fenêtres, dans une chambre tranquille, brûler une faible lumière, une petite flamme triste qui tremblote et déplace des ombres sur les murs. Pas de bruit, sinon parfois un sanglot étouffé. Il y a un lit aux grands rideaux blancs, avec de longues ombres dans leurs plis. Sur ce lit, quelque chose de blême et d'immobile, c'est ce qui fut un jour le petit Johannes. Et alors ce même chant éclatera dans la chambre, sonore et fringeant, et célébrera la première heure de ta mort. 12 branles à long intervalle vibrèrent dans les airs. Soudain, au dernier coup, Johannes se sentit emporté comme en rêve. Il planait au-dessus des toits et des lumières qui se dérobaient sous lui. Les maisons s'espaçaient ayant entre elles des trous noirs, mystérieux, où des lanternes éclairaient bizarrement des flaques d'eau, des décombres, des poutres. Enfin apparurent un porche aux lourds piliers et une haute grille. En un instant, ils les eurent franchis et atterrirent sur un gazon humide, à côté d'un monceau de sable. Johannes, entendant des feuillages bruire, se crut dans un jardin. Ouvre bien les yeux, dit Plücher. Regarde et ensuite ose prétendre un cœur que je ne suis pas plus fort que Liceron. Plücher poussa un appel bref et sinistre qui transit Johannes jusqu'aux eaux. Les échos des ténèbres répétèrent ce cri, élevant le charia en ses tourbillons jusqu'à ce qu'il s'éteignit dans le lointain. Johannes et Plücher se rapétissèrent au point que les brins d'herbe et les graviers, qu'ils foulaient tantôt sous leurs pieds, dépassaient maintenant leur front. De dessous une dalle que Plücher avait soulevée de toutes ses forces, montèrent des voix fines, grêles. « Que se passe-t-il ? Oh là, le maladroit !» Des bêtes noires et agiles coururent en désordre. Des escarbots, de luissants perce-oreilles pointant leurs minces tenailles, des cloportes au dos rond. Un long ver de terre se retira vivement dans son trou. Plücher, écartant les bêtes qui l'entouraient en l'accablant d'infectives, se précipita à sa poursuite. « Hé ! » lui cria-t-il, « long flandrin, montre donc le bout de ton museau. »« Que te faut-il ? » demanda le ver du fond de la terre.
Sors de là pour m'y laisser passer. »
Prudemment, le ver poussa sa tête effilée, tâtonna autour de lui, puis étira lentement son cœur visqueux. Plucheur passa en revue la bête qui maintenant se bousculait autour de lui, intriguée. Il leur parla de la sorte. « Que l'une d'entre vous me guide et m'éclaire. Non, pas toi, noir escarbot, tu es trop gros. Ni toi, mille pieds, tu me donnerais le vertige. Toi, perce-oreille, ta figure me revient. Tu me précéderas en portant la lumière dans tes pinces. Qu'on aille chercher un feu follet ou que l'on me ramasse une torche de bois pourri. » Ce ton impérieux en imposa, et la bête obéirent. Alors, Plucheur et Johannes pénétrèrent sous terre. Devant eux, le perce-oreille haussait un brin de bois qui éclaira d'une lueur bleuâtre la galerie, dont les grains de sable paraissaient de la taille des moulons. Le ver, en s'y frottant au passage, avait fait les parois lisses et dures. Curieux, le ver de terre suivait, et Johannes voyait derrière soi le fin museau s'avancer vivement, puis s'arrêter pour attendre que le cœur se fût de nouveau ramassé. Longtemps, sans mot dire, ils descendirent en rampant. Quand la pente était trop escarpée, Plucheur retenait Johannes, et toujours, pliant son cœur au gré des détours qui faisaient la galerie sans fin, le perce-oreille les précédait. Enfin, la voie s'élargit. Les grains de sable, d'un aspect noir et humide, formaient une voûte, le long de laquelle des gouttes d'eau en ruisselant traçaient des sillons luisantes, où des racines se tordaient comme des reptiles radis. Le chemin se heurta à une haute et noire paroi. Le perce-oreille se retourna en disant « Il s'agit de franchir cet obstacle. Le ver de terre connaîtra bien quelques passages. Il est ici, chez lui. « Approche et serre-nous de guide, » ordonna Plucheur au ver de terre. Le ver obéit et fureta ça et là. Johannes constata que la barrière à laquelle il s'était heurté était faite de planches, que la pourriture par place avait effrité. Le ver s'y vrilla un trou et, en trois temps, son cœur s'y enfonça. « À ton tour !» dit Plucheur, et dans l'étroite ouverture, il poussa Johannes, que la vermoulure humide et molle faillit étouffer. Il parvint enfin à dégager sa tête et, après beaucoup d'efforts, à passer. Un grand espace l'environnait. Le sol était dur et moulé, l'air épais et accablant. Johannes, oppressé, se sentait en proie à des transes indicibles. La voix de Plucheur sonnait creux comme dans un caveau. « Par ici, Johannes, suivez-moi !» Le fond s'enflait en dos d'âne et, à la main de Plucheur, Johannes gravissait au milieu de profondes ténèbres. Il croyait fouler un tapis qui cédait sous ses pas. Il trébuchait dans des trous. À la fin, il s'arrêta sur une sorte de plateau et sirotant à des tiges qui, dans ses mains, ployaient à la manière des roseaux. « Ici nous sommes bien, arrêtons-nous, de la lumière !» cria Plucheur. Une lueur pointa, montant et descendant au gré du terrain. À mesure qu'elle s'approchait, une vague clarté emplissait l'espace. L'angoisse de Johannes croissait. Le monde où il était debout se prolongeait, tout blanc. Les roseaux auxquels il se cramponnait étaient bruns et pendaient en boucles luisantes. C'était un cadavre que voyait Johannes. Comme deux fosses se creusaient les orbites vides. La clarté bleuâtre dessinait la ligne mince du nez, ainsi que les lèvres terreuses, entr'ouvertes en un rictus figé et macabre. Plucheur pouffa d'un grand rire, qu'amortirent aussitôt les parois de bois humide. « Hein, Johannes, en voilà une, de surprise !» Le ver étira son long cœur entre les plis du linceul, rampa le long du menton, puis enjamba la bouche rigide et noire. « Tu vois celle qui fut la plus belle du bal et que tu comparas à un elfe. Autrefois, sa chair et sa chevelure embaumaient des plus douces senteurs, ses regards rayonnaient de joie et sa bouche était souriante. Et maintenant ?» Malgré son émoi, Johannes demeurait incrédule.
« Quoi? Il n'y avait que peu d'heures et déjà !»«
Ne me crois-tu pas ?» ricana Plücher. « Depuis, 50 années ont passé. Le temps et les heures sont inexistantes. Ce qui fut subsiste éternellement, et ce qui sera a déjà commencé d'être. Ton entendement ne peut le concevoir, et cependant tu dois l'admettre. Tout ici est vérité, tout. Liceron n'aurait jamais pu t'en dire autant. »
Plücher se mit à gambader sur le visage de la morte, en plaisantant odieusement, puis, accroupi sur les paupières, il les ouvrit en tirant sur les scies. La prunelle, que Johannes avait vue étinceler, apparaissait ridée et terne.
« En avant !» cria Plücher. « Il nous reste à voir encore bien des choses. »
Le verre s'étira lentement d'entre les lèvres où il s'était blotti, et la marche continua par de longs et obscurs chemins.
« Ceci est un vieux cadavre, » dit le verre de terre, quand, pour la seconde fois, une planche se rencontra en travers de la route. Il y a longtemps qu'il est en terre. La vue en était moins hideuse. Johannes ne découvra qu'un amas confus d'où sortaient des ossements brunis. Des centaines de verres y étaient silencieusement occupés. La lumière suscita quelque émoi parmi eux.
« D'où sortez-vous ? Qui nous apporte cette lumière ?
Nous nous en passons volontiers. »
Et vivement, les verres se glissèrent entre les plis, dans les fentes et les trous. Pourtant, dans le perce-oreille, ils reconnurent un de leurs pareils.
« Avez-vous été ici à côté ? » demandèrent-ils.
« Non, » répondit le perce-oreille, « le bois est encore trop dur. »«
Il veut se réserver l'aubaine, » insinua Plücher tout bas à Johannes. Plücher resseigna Johannes et lui dessigna les mœurs que l'enfant avait approchées autrefois. Devant une face bouffie, aux yeux figés et saillants, aux lèvres et aux joues épaisses, il lui dit gaiement, « Ce fut un grand personnage. Il aurait fallu le voir, riche et enflé d'importance et de vanité. Son enflure, il a gardé. » Il y avait des cœurs amaigris, aux cheveux blonds, que la lumière effleura d'un pâle reflet, des petits enfants au crâne démesuré et qui avaient un visage à la fois saigné et pensif.
« Vois, » dit Plücher, « ceux-là ont vieilli après leur mort. »
Un homme à barbe plein, les dents luisantes entre les lèvres retroussées, avait un trou rond au milieu du front. Il n'a pas eu la patience d'attendre que le camard vienne le prendre. Il a appelé de force. « Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, ne devait-il pas quand même y passer ?»«
Je m'arrête ici, » dit le perce-oreille. « Je connais plus le chemin. »
« Rebroussons !» dit le verre.
« Plus qu'un !» cria Plücher.
Puis, s'adressant à Johannes, « Et tout ce que tu vois ici existe. Une seule chose n'est que vaine apparence, et c'est toi-même. Tu es ici, Johannes, et tu ne peux y être. » Et il éclata de rire à l'aspect du regard plein d'une folle angoisse que Johannes tournait vers lui.
« Ce sera le dernier, vraiment le dernier, » fit Plücher.
« Nous sommes dans une impasse, je n'avance plus, » grommela le perce-oreille.
« J'avancerai bien, moi, » s'écria Plücher.
Arrivé à la cule, il se mit à fouiller la terre avec ses ongles. « Aide-moi, Johannes !» Et, dénué de tout vouloir dans l'excès de sa détresse, Johannes creusa la fine terre humide qu'il rejetait à mesure derrière lui. Peine en dure, sans mot dire, ils atteignirent à une planche noire. Le verre, en la heurtant, retracta sa fine tête. Le perce-oreille laissa choir sa lumière et dit en s'en retournant, « Ils n'y entreront jamais, le bois est trop neuf. »«
Je le veux !» répéta Plücher.
De ses doigts crochus, il arrachait de longues échardes de bois blanc. Johannes se sentait oppressé d'horreur, mais une puissance le surmontait contre laquelle il ne pouvait lutter. Enfin, un trou de ténèbres apparut où, après avoir ramassé la lumière, Plücher pénétra.
« Ici, ici, suivez-moi » cria-t-il en courant. quand, dans la bière, Johannes atteignit la main qui reposait croisée sur la poitrine et dut s'asseoir pour reprendre haleine. Il considéra les doigts minces et blonds à demi éclairés. Tout d'un coup, il les reconnut. Il reconnut la forme et les plis de ses propres doigts, le dessin de ses ongles maintenant bleuis. Il reconnaissa une petite tache qu'il avait à l'index. C'était sa main à lui, ses mains. « Ici, ici !» lui cria Plucheur, qui s'était déjà avancé jusqu'à la tête. « Sais-tu qui c'est ?» Johannes voulut se redresser et se rapprocher de la lumière, mais il ne put. La flamme se déroba, l'abandonnant dans une nuit totale où il défaillit.